Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria France, comme annoncé, en effet, nous nous retrouvons maintenant en direct. Nous sommes le mercredi 25 octobre 2020. Il est 17h passé de 1 minute et j'avais oublié le nom de l'émission, émission Kairos, en effet. Très important de savoir ce que c'est que le Kairos. Le Kairos, c'est le temps, mais à la différence du chronos qui est tic-tac, 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 le chronos, le kairos, pardon, c'est la période, c'est le moment favorable, défavorable, la période, ce que nous avons à vivre dans le temps, selon Dieu, dans la manière dont Dieu réalise son œuvre dans ce temps, à nous qui sommes dans un espace-temps, créature. Créé avec sagesse, avec amour, et dans un plan, dans un dessein de Dieu. Et c'est de cela que je voulais vous parler, parce qu'il y a quand même des choses qui se passent. Je vais vous lire, et vous êtes au courant comme moi, le communiqué de presse de la conférence des évêques de France. Il y en a eu deux. Un tiré du 24 novembre, hier. 30 personnes par célébration. Deux points. Les catholiques n'ont pas été entendus. La conférence des évêques de France est à la fois déçue et surprise par l'annonce faite ce soir par le président de la République concernant le nombre de 30 personnes autorisées dans le cadre de l'exercice public du culte à partir du 29 novembre. Cette annonce n'est pas du tout conforme aux discussions qui ont eu lieu ces dernières semaines avec les ministres concernés. Dès ce soir, avec des représentants d'autres confessions chrétiennes, Mgr Éric de Moulin-Beaufort, président de la CEF, a interpellé le président de la République pour demander que soit révisée cette mesure. En effet, cette mesure irréaliste et inacceptable est tout à fait irrespectueuse de la réalité de la pratique religieuse des catholiques. L'Église catholique a proposé dans son protocole un espace de 4 mètres carrés autour de chaque fidèle et une occupation partielle de l'Église au tiers de la capacité habituelle. Les catholiques sont conscients des enjeux sanitaires et sont capables de faire preuve d'une totale responsabilité dans l'application des règles de protection. La mesure annoncée paraît ignorer ce sens des responsabilités dont ils ont déjà su faire preuve depuis le début de l'épidémie. La période de l'Avent qui s'ouvre devant nous est un temps fondamental de préparation à Noël. Le rassemblement dominical constitue une étape essentielle pour les fidèles durant cette période. 24 novembre. Le 25 novembre. La conférence des évêques de France attend une jauge réaliste pour le nombre de fidèles autorisés aux célébrations publiques. Suite à l'incompréhension manifestée par les catholiques et d'autres quant au nombre de 30 personnes autorisées à assister à une célébration publique à partir du 28 novembre, le président de la CEF, Mgr Éric de Moulin-Beaufort, et le président de la République, Monsieur Emmanuel Macron, ont eu un échange téléphonique hier soir 24 novembre. Alléluia. Il ressort qu'une jauge réaliste, tout en restant stricte, sera définie d'ici jeudi matin pour une mise en application en deux étapes, samedi 28 novembre, puis après la réévaluation du 15 novembre. C'est dans cette perspective que la conférence des évêques continue son dialogue avec les services du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur. Voilà, je voulais vous lire ce communiqué de presse, à la fois celui d'hier et celui d'aujourd'hui de la conférence des évêques de France. 30 personnes, hein, quand on est dans à Saint-Sulpice à Paris, hein, ou dans une petite église de village, voilà. Je ne ferai pas de commentaires supplémentaires. Il y en a déjà suffisamment sur les réseaux sociaux, sur Internet. Je pense que les catholiques ont réagi très rapidement et très normalement, j'allais dire. Je pense que les mots forts ont déjà été utilisés dans les communiqués que je vous ai lus. Nous vivons une période très spéciale, tout à fait spéciale. Liberté de culte brimée. Et puis on dit non, 30 personnes. Ce n'est pas le premier essai. Ce n'est pas le dernier non plus. Alors on peut passer son temps à commenter l'actualité et à rester au niveau de l'actualité. Et je remercie ceux et celles qui sont au front. ce qu'ils doivent défendre les intérêts des fidèles. Mais je voudrais avec vous prendre un peu de hauteur, non pas que d'être sur le terrain ce soit pas nécessaire, parce que nous sommes dans un temps liturgique très spécial. Nous sommes entre la fête, la solennité du Christ roi et le temps de l'Avent qui va commencer justement. Justement, on ne sait pas avec combien de personnes dans les églises, avec quelle proportion, mais qui va commencer le week-end prochain. Nous entrons dans une nouvelle année liturgique. Pour nous, l'année liturgique commence avec le premier dimanche de l'Avent et se clôture avec la royauté du Christ sur l'univers. Et juste entre les deux, il y a le président Macron qui dit, ben voilà, 30 personnes, maximum. Au milieu d'une crise sanitaire, au milieu d'une gestion de crise sanitaire, et chacun de nous, frères et sœurs, on comprend que ce n'est pas que le Covid qui est en train de se passer. Ce n'est pas qu'un virus et ce n'est pas qu'une épidémie qui est en train de bousculer le monde. Où est-ce que nous en sommes? Je vais vous lire ce que Jésus dit à Luisa Picaretta dans le tome 12, le 29 janvier 1919, et vous allez voir que c'est une grande lumière pour comprendre un petit peu le moment, la période de changement, de basculement que nous sommes en train de vivre dans l'histoire de l'humanité selon le dessein de Dieu. Car l'histoire ne se comprend bien que dans la lumière du dessein de Dieu. C'est une histoire sainte. Je vous lis un extrait. Donc, tome 12 du Livre du Ciel, le 29 janvier 1919. Ma fille bien-aimée, je veux te faire connaître l'ordre de ma providence. À tous les 2000 ans, j'ai renouvelé le monde. À la fin du premier 2000 ans, je l'ai renouvelé par le déluge. À la fin du second 2000 ans, je l'ai renouvelé par ma venue sur la terre, où j'ai manifesté mon humanité. À travers elle, comme à travers un treillis, ma divinité s'est laissée deviner. Les bons et les très saints des 2000 ans qui ont suivi cette venue ont vécu des fruits de mon humanité et ont joui un peu de ma divinité. Actuellement, nous sommes près de la fin de la troisième période de 2000 ans. Il y aura un troisième renouveau. C'est là la raison de la confusion générale actuelle, qui n'est rien d'autre que la pré-passion au troisième renouveau. Au second, j'ai manifesté ce que mon humanité a fait et souffert, mais j'ai très peu fait connaître ce que ma divinité y a fait. À ce troisième renouveau, après que la terre aura été purifiée et une grande partie de la génération présente détruite, je serai encore plus magnanime pour les créatures. Je réaliserai le renouveau en manifestant ce que ma divinité a fait dans mon humanité, comment ma divine volonté a travaillé de concert avec ma volonté humaine, comment tout est lié en moi, comment j'ai refait toutes choses, comment chaque pensée des créatures fut refaite par moi, et scellés dans ma divine volonté. Mon amour veut s'épancher en faisant connaître les excès que ma divinité a fait dans mon humanité en faveur des créatures, excès allant bien au-delà de ce qui a pu paraître extérieurement. C'est pourquoi je t'ai tant parlé de la vie dans ma volonté, ce que je n'avais manifesté à personne auparavant. Au plus, ils ont connu l'ombre de ma volonté, un aperçu des grâces et de la douceur qu'on éprouve en l'accomplissant. Mais la pénétrer, embrasser son immensité, se multiplier avec moi et pénétrer partout, autant sur la terre que dans le ciel et dans les cœurs, abandonner les voies humaines et travailler à la manière divine, cela n'est pas encore connu. Aussi cela apparaîtra étrange à beaucoup. Quiconque n'a pas l'esprit ouvert à la lumière de la vérité n'y comprendra rien. Néanmoins, petit à petit, je montrerai la voie, manifestant une vérité à un moment, une autre à un autre, de manière à ce qu'on finisse par y comprendre quelque chose. Voilà ce que je voulais vous lire. C'est un petit extrait de ce que Jésus dit à Louisa dans 1919. Actuellement, nous sommes près de la fin de la troisième période de 2000 ans. Rappelez-vous dans le livre de la Genèse, Dieu crée. La création se déroule en 6 jours. D'accord? 6 jours pour la création. 7e jour, c'est le Shabbat. Le repos. Dieu se repose de ce qu'il a fait. Il contemple son œuvre. Il se repose dans le cœur de la femme, réunie en son nom. 7e jour, Shabbat. 6 jours de création. Un jour est comme 1000 ans, dit l'Écriture plusieurs fois. Il nous est dit dans l'Écriture, un jour, c'est 1000 ans. C'est comme ça que les Juifs, c'est la manière biblique de compter. Ce n'est pas la manière solaire, romaine ou grégorienne de compter. C'est une autre manière. Un jour, 1000 ans. Un jour est comme 1000 ans. Quand Saint-Pierre dit ça, il est juif hein, au départ. Il n'est pas en train de dire un jour, c'est comme 1000 ans. C'est pas poétique, c'est pas symbolique. C'est qu'il sait très bien comment les Juifs comptent. Et alors, ils ont une manière propre de compter. Jésus compte comme ça. Il dit, il y a 4000 ans, j'ai créé l'homme. Il y a 2000 ans, avant l'incarnation, il y a eu le déluge. Il y a 2000 ans, il incarnation, le salut. Et là, nous sommes à 2000 ans, à peu près. Vous voyez, on n'est pas millénariste, dans le sens, en l'an 2000, il va se passer, en l'an 2000, pile à minuit et 10 secondes. Mais nous sommes à la fin du 6e jour. Et qu'est-ce qui se passe entre le 6e et le 7e jour? Le 7e jour, c'est le Shabbat. Le 6e jour, c'est la création de l'homme et de la femme qui achève la création. Eh bien, il y a ce passage entre le 6e et le 7e. Et nous sommes là. Nous allons bientôt rentrer dans le 7e jour de l'histoire de l'humanité, qui ne compte que 7000 ans. Le 8e jour, c'est l'éternité, c'est l'entrée dans l'éternité, car nous ne sommes pas faits pour rester éternellement sur la terre. La vie humaine, l'histoire de notre humanité, comme dit le catéchisme de l'Église catholique, pour chaque être humain, évidemment, on fait notre passage. Chaque jour, je meurs, chaque jour, je fais ma Pâque, et puis à un moment donné, 5, 4, 3, 2, 1. Et pour l'histoire de l'humanité, elle a un début. Avant, il n'y avait pas d'être humain. Et puis, il y a eu Adam et Ève. nos premiers parents. Et il y a une histoire sainte, qui est comptée. Nos jours sont comptés, aussi bien personnellement que communautairement. Et il y a donc un plan, un dessein bienveillant de Dieu, non seulement sur chacun de nous, mais sur l'humanité. Et alors bientôt, très bientôt, le Seigneur vient. Nous entrons dans le temps de l'Avent. L'Avent, je ne sais pas si vous savez, pour ceux qui sont forts en orthographe, il y a l'Avent, ça s'écrit A-V-E-N-T, avec un E et non pas avec un A. L'Avent, ce n'est pas avant, c'est Adventus. Ça veut dire l'avènement. Nous entrons dans l'avènement. L'avènement de quoi? Du petit Jésus dans la crèche? Oui, liturgiquement, oui, on va fêter ça, on va fêter Noël. Je ne sais pas comment, avec qui, limité à combien, dans quelles conditions, mais bon. Mais l'histoire de l'humanité entre dans l'avant, l'avènement. Nous entendrons dimanche, premier dimanche de l'avant, la deuxième lecture tirée de Saint Paul, la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Aucun don de grâce ne vous manque à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout. Et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ. Il y a donc, dans ce temps de l'Avent 2021, parce que, encore une fois, l'année liturgique on va rentrer dans l'année B, avec le premier dimanche de l'Avent, premier dimanche de l'Adventus. Alors, on est tous focalisés sur la crèche, mais d'abord, il nous faut être focalisés sur le Seigneur Jésus qui vient. Qui vient faire quoi? Il vient régner. Il vient régner sur la terre. Nous allons rentrer dans le septième jour, qui est le temps du millénium, les fameux 1000 ans. 1000 ans, c'est comme un jour, d'accord? De l'Apocalypse, chapitre 20. Millénium, qui a distingué de l'hérésie du millénarisme, qui consiste à dire que Jésus va venir régner dans sa chair, comme il y a 2000 ans. Non, ça c'est faux. Ça c'est condamné par l'Église. Jésus ne vient pas régner dans sa chair comme il l'était là il y a 2000 ans. Mais il vient régner concrètement de ce règne spirituel dans nos âmes à travers nous, le règne de la divine volonté. Pourquoi Luisa Picaretta sort comme ça de terre au XXe siècle? Pourquoi tant de mystiques? Tant de papes, tant de prophètes, tant de théologiens actuels, en réfléchissant sur les temps, le kairos que nous vivons, ont dit tous la même chose, à savoir que nous allons rentrer très, très, très prochainement dans ce que, il y a plusieurs mots pour le décrire, dans cette ère de paix, ce millénium, ce temps de paix. La Vierge Marie à Fatima a prophétisé. Fatima, c'est quoi? 19e siècle, 1917. Luisa Picaretta, c'est le passage que je vous ai lu, 1919. Beaucoup d'autres mystiques de l'Église catholique ont reçu de la part du Seigneur, avec imprimatur des évêques, des paroles de Jésus prophétiques qui ont prophétisé le kairos que nous vivons. Ce passage du sixième au septième jour. C'est encore une fois, ce sont des paroles de pape, comme déjà Saint-Irénée, par exemple, Saint-Irénée, c'est un des pères de l'Église, Saint-Irénée, il est, imaginez-vous, il est disciple de Saint-Polycarpe. Saint-Polycarpe, c'est le disciple de Saint-Jean. Saint-Irénée de Lyon. Lui, il a vu les choses très très clairement en disant la fin du monde, la fin des temps, il y a comme un... Vous savez, quand vous jetez un galet sur l'eau, un galet plat, ça fait un ricochet. Voilà. Saint-Irénée a beaucoup parlé de la fin des temps de la fin. Et lorsque nous parlons du septième jour, du millénium, des 1000 ans, de l'ère de paix, etc., ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas la fin. Non, la fin, tout à la fin, c'est le huitième jour. C'est l'entrée dans l'éternité. Mais je voulais vous partager aujourd'hui, frères et sœurs, parce que sinon on peut être collé à l'actualité et collé à nos masques, vous voyez, et collé à nos contraintes sanitaires, et collé à tout ce qui se passe, et on voit pas, on ne comprend pas, on n'a pas de lumière, personne ne nous dit. Si, 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 il y a des gens un peu éberlués qui causent aussi, hein. Il y a les faux prophètes. Mais il y a quand même des gens sensés qui sont dans l'Esprit Saint, qui nous disent, fondés sur l'Écriture, appuyés sur la tradition de l'Église, des pères de l'Église, par exemple Saint-Irénée, les papes, Jean-Paul II par exemple, Saint Jean-Paul II, pour lui, le passage à l'an 2000 était vraiment le passage à l'aube du nouveau millénaire, bien sûr. Et dans Novo Millennio Innuente, par exemple au paragraphe numéro 9, il rappelle qu'il a demandé aux jeunes à Toronto d'être des sentinelles du matin qui annoncent la venue du soleil qui est le Christ ressuscité. Alors oui, ben voilà, ça veut dire évangéliser, chers jeunes, évangéliser. Oui, mais annoncer la venue du soleil qui est le Christ ressuscité, c'est quand même spécial. Alors, il aurait pu dire, je vous invite à évangéliser, annoncer le Christ mort et ressuscité, oui. Mais annoncer la venue, c'est un peu différent. Jean-Paul II était très au fait du kairos que l'Église vit en ce moment. C'est important pour nous, membres de l'Église catholique, de comprendre quelle période nous sommes en train de traverser. Je dirais même, il y a même chez quelques pasteurs protestants qui sont très au fait de ce kairos que nous traversons. Et je dirais que c'est peut-être, bon, je ne connais pas l'Église orthodoxe, mais il y a comme un réveil dans l'Église catholique en ce moment sur ces choses, ce qu'on appelle l'eschatologie. Il y a la fin dernière de nos petites vies, de nos pauvres vies humaines, mais il y a les fins dernières de notre histoire commune, de l'histoire de l'Église et de l'histoire de l'humanité. Quand vous prenez un train, on ne va pas dire l'avion, parce que c'est un peu compliqué, un train pour aller de Toulon à Paris, vous aimez bien de temps en temps, quand le train s'arrête, vous regardez sur le quai s'il n'y a pas le panneau, vous savez, avec le nom de la ville écrit. Ah tiens, on est à Avignon. De temps en temps, vous regardez votre téléphone, hein, la carte. Je suis où là? C'est beau. Des beaux paysages. Ah. Ah ben oui, on n'est pas loin d'Autun. C'est joli par là-bas, dans le train. Et vous aimez bien donc savoir où est-ce que vous en êtes dans votre voyage. Eh bien, voilà où est-ce qu'on en est dans notre voyage. C'est magnifique de voir à quel point aussi la Vierge Marie vient au secours de l'Église et annonce le triomphe de son cœur immaculé. Nous attendons une nouvelle Pentecôte, prophétisée par les papes. Un printemps de l'Église, n'en déplaise à ceux qui veulent Vous encombrer, vous embêter. Hein? Nous sommes à la veille du règne du royaume de la divine volonté, qui régnait déjà évidemment dans Jésus, qui est le royaume, dans le cœur immaculé de Marie. Mais là, ce qu'on voit, c'est que ce royaume est en train d'avoir de plus en plus de sujets. Il y a le roi et la reine de ce royaume, et il y a de plus en plus de sujets de ce royaume. Les papes Pie X, Pie XI, Pie XII, Benoît XVI disait, alors que l'on avait parlé auparavant que d'une double venue du Christ, une fois à Bethléem et de nouveau à la fin des temps, Saint Bernard de Clairvaux a parlé d'un Adventus Medius. Adventus, l'avant, Medius, une venue intermédiaire grâce à laquelle il renouvelle périodiquement son intervention dans l'histoire. Je crois, nous dit Benoît XVI, que la distinction de Bernard, de Saint Bernard, frappe juste la bonne note. Donc Benoît XVI, pour lui, c'est un fin théologien, évidemment, un excellent théologien. On ne peut plus fidèle au magistère, évidemment. Pour lui, c'est clair. Il y a, dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années, on est tout proche de cette venue intermédiaire de Jésus. Que Saint Jean-Paul II demandait aux jeunes à Toronto d'annoncer la venue. Jean-Paul II qui disait, après purification par l'épreuve et la souffrance, l'aube d'une ère nouvelle est sur le point de se lever. Il disait ça le 10 septembre 2003 dans une audience générale. Après purification par l'épreuve et la souffrance, et là il reprend toutes les paroles de l'Évangile. L'aube d'une ère d'une nouvelle ère est sur le point de se lever. Pie XI disait, quand il arrivera, ce sera une heure solennelle, une grande avec des conséquences non seulement pour la restauration du royaume du Christ, mais pour la pacification du monde. La pacification du monde. Il y a donc un monde apaisé qui est devant nous. Je ne veux pas vous dire, vous inquiétez pas, tout ira bien. Mais cette période de paix, le repos du Shabbat, annoncé dans les évangiles, les pères de l'Église, le magistère de l'Église, le catéchisme de l'Église catholique, ce septième jour, par la Vierge Marie dans ses différentes apparitions, depuis Fatima jusqu'à maintenant, nous voyons le ciel qui vient nous préparer, nous avertir qu'il nous faut nous convertir. Car si le Seigneur vient, ça va secouer un peu. Le passage du sixième au septième jour ne se fait pas, j'allais dire, sans douleur d'enfantement. Le règne de la divine volonté en chacun de nous se fait. Mais pour ceux qui refusent le règne, pour ceux qui refusent Jésus, l'amour de Dieu, c'est compliqué aujourd'hui et ça va être compliqué demain. Mais je voulais aujourd'hui vous dire ça. Parce que pour moi, je ne sais pas pour vous comment vous recevez ces paroles, cela me donne beaucoup d'espérance. Cela me revigore dans l'espérance. Parce que sinon, c'est tous les jours mauvaise nouvelle selon un tel, mauvaise nouvelle selon un tel. Alors que notre vie personnelle, comme notre vie collective, la vie de l'Église et la vie du monde fait partie du dessein de Dieu qui accomplit fidèlement ses desseins bienveillants. Et alors, pour entrer dans ce septième jour, il y aura un moment de purification. Je refuse de rentrer dans les détails qui nous feraient enfermer, peut-être trop facilement, le côté descriptif, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, pour laisser, j'allais dire, l'espace intérieur de nos cœurs suffisamment grand, large, et suffisamment, j'allais dire, confiant, enraciné dans la foi, dans l'espérance et la charité, pour que nous puissions, lorsque le Seigneur vient, le reconnaître. Pourquoi ? Parce que nous l'aurons attendu. Nous ne serons pas surpris. Nous serons juste heureux. Car l'avènement dont nous parlons, il y a un avant et un après. Alors celui-là, l'avant avec un A. La venue de Jésus, c'est comme il y a 2000 ans, si vous voulez. Il y a avant l'incarnation et puis après l'incarnation. C'est un événement. L'avènement de Jésus, c'est un événement. Un événement qui concerne le monde entier. Un événement devant lequel chaque être humain devra se positionner. En accueillant l'amour de Dieu manifesté dans le Christ mort et ressuscité, ou en refusant. Jésus nous dit dans l'Évangile selon saint Marc, « Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. » C'est donc un temps de l'avant où le Seigneur nous dit, nous fait rentrer pour nous dire voilà. Nous sommes actuellement à la fin du sixième jour dans notre histoire collective. Bientôt, nous allons rentrer dans le septième jour, le jour du Shabbat, qui est celui du règne de la divine volonté. Alors on ne va pas attendre les bras croisés devant notre télé, vous comprenez ? On va prendre ce temps qui nous est donné, cette période, ce kairos, pour faire le point sur notre vie, pour nous convertir, pour dire Seigneur, je n'ai qu'une vie, je n'ai qu'une seule histoire, je n'ai qu'un temps à vivre sur cette terre, et ce temps que tu me donnes, il est orienté vers l'éternité. Et ce que je vis aujourd'hui, dans ma vie d'aujourd'hui, dans ce petit espace-temps qui est le mien, eh bien c'est ça qui va déterminer ce que je vivrai pour toujours. Entrer dans le temps de l'Avent, l'Avent 2020, T1, c'est entrer avec une immense espérance, quelques clés de compréhension quand même sur la période que nous traversons, qui est un temps de confusion générale. Mais je vous relis pour terminer ce que je vous ai lu au début. Actuellement, nous sommes près de la fin de la troisième période de 2000 ans. Il y aura un troisième renouveau, c'est Jésus qui parle. C'est là la raison de la confusion générale actuelle, qui n'est rien d'autre que la préparation au troisième renouveau. Retenons ça. Il y a comme un travail d'enfantement. La mère qui va mettre au monde son enfant, c'est les douleurs qui commencent. Ça y est. Ça y est. Et puis les douleurs vont aller s'accentuant. Ne nous étonnons pas. En plus, on commence à avoir les petites gouttes de la pluie. Les petites gouttes. Au début, c'est les petites gouttes. Dans l'église, qui se ferme, et puis qui se réouvre, mais sans culte. Et puis le culte qui se rouvre, mais 30 personnes. On sent bien que depuis un an maintenant, nous sommes rentrés dans un comme des perturbations, des turbulences. Et comme en avion, il y a une petite lumière qui s'allume et un petit message qui dit attachez vos ceintures. Ça va secouer un peu. Mais ne vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, il y a les masques qui tombent. Vous pouvez respirer. Pour nous, le masque, c'est le chapelet. La prière du chapelet, la prière du rosaire. Pour vivre cette période de secousse, et ce qui est merveilleux, c'est qu'on est ensemble. On n'est pas tout seul. On est dans le même avion. Et on sait que l'avion va se poser. Et qu'on va arriver à destination. Pourquoi est-ce qu'on sait ça? Parce qu'on a la foi, tout simplement. Donc on n'est pas inquiet. Quand Jésus nous parle du temps de la fin des temps, il nous dit des choses quand même assez impressionnantes, hein? Tremblement de terre, épidémie, famine. Dans l'Apocalypse aussi, c'est pas drôle. Mais il ne nous dit pas ça pour nous faire paniquer. Il nous dit tout ça pour nous avertir. Et puis quand vous verrez ces choses arriver, ben relevez la tête, votre rédemption approche. C'est-à-dire qu'il y a un travail d'enfantement qui est en train de se faire. Enfanter à quoi? Enfanter l'humanité à ce pourquoi elle est faite. Sa finalité, selon ce pourquoi elle a été faite, selon l'ordre, le rang, la finalité de ce pourquoi nous sommes faits. Il est hors de question que le Seigneur, qui a créé l'homme et la femme, qui a sauvé l'homme et la femme, n'aille jusqu'au bout avec nous pour que, selon ce qu'il veut, qu'on vive sur la terre, à savoir qu'on vive du règne de sa volonté, eh bien, il est hors de question que le Seigneur n'aille pas jusqu'au bout. Alors, ça va arriver quand? Ben, dans 3000 ans? Non. Ça a commencé. Encore une fois, si on prend tout ce qui se passe, depuis notamment un siècle, avec encore une fois toutes les apparitions mariales, c'est quand même impressionnant de voir à quel point le ciel se dérange pour nous parler, pour nous éduquer, pour nous réveiller, pour nous appeler à la conversion. Et pourquoi? Parce que on fait n'importe quoi de notre vie. Et que le Seigneur nous aime. Alors, il y aura des châtiments qui ne peuvent être évités, mais qui seront, grâce à la prière des élus, diminués. Parce que, encore une fois, pour arriver au septième jour, c'est comme un goulot d'étranglement. Alors, sans peur, sans crainte, avec ces quelques clés que je voulais vous donner aujourd'hui, et vous voyez bien, vous comprenez bien l'importance vitale d'une réalité comme Radio Maria dans l'époque dans laquelle nous vivons, pour que nous puissions attacher nos ceintures, prier le rosaire ensemble, vivre de l'Évangile dans l'Esprit Saint ensemble et que nous puissions annoncer l'Évangile, proclamer Jésus Sauveur. C'est une question de vie ou de mort et c'est une question urgentissime. Donc Radio Maria France est là pour évangéliser. Merci de la soutenir. Voilà, chers amis auditeurs, je ne vous laisse pas. Malheureusement, j'ai trop parlé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir. Voilà, un autre moment, par SMS ou téléphone, n'hésitez pas. Mais je voulais vous dire ces choses, parce que ça nous remplit d'espérance, et l'espérance ne déçoit pas parce que l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur. Et que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.